Pouty, on va enchaîner même avec le slide. Voilà. Nous allons poursuivre dans la matinée avec une table ronde autour de la question de la politique, des élections et du rôle ou en tout cas de la place des catholiques dans ce débat public. On sait aussi que dans ce débat public, et depuis hier, le terme est revenu plusieurs fois de la laïcité, même si ça n'était pas directement le sujet des différentes rencontres d'hier, Eh bien, en tout cas, c'est vraiment le sujet de ce matin. Haro sur les religions, la laïcité sous tension. Cette laïcité, eh bien, il va falloir un peu la décrypter, savoir un peu si elle est en pleine forme, tant pis pour les religions, ou si au contraire elle est malade. Et là aussi, c'est difficile pour les religions. Pour nous aider à réfléchir, j'accueille Jean-Luc Pouthier, que beaucoup d'entre nous, nous le connaissons bien. Jean-Luc, à la fois enseignant, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, à la fois journaliste qui a été rédacteur en chef du Monde de la Bible, qui est auteur de nombreux articles chroniques, membre de plusieurs comités de rédaction. Il a été conseiller culturel de l'ambassade auprès du Saint-Siège. Très au fait du fait religieux. Et puis aussi, réfléchissant à cette question de la laïcité, Jean-Luc, je ne vais pas développer davantage pour te laisser la parole, de façon à ce que nous puissions profiter au maximum de cette réflexion.
Merci Christophe pour cette très, très gentille et amicale présentation. C'est un sujet très, très débattu et il est difficile sur ce terrain d'être original. Donc je vais sans doute rappeler un certain nombre, j'espère pas de lieux communs, mais de notions que vous connaissez. Mais peut-être que ce rappel sera utile pour permettre ensuite un échange avec la salle, puisque je crois qu'il est prévu que nous pourrons débattre ensuite d'un certain nombre de points que j'aurai évoqués. Alors, c'est pas un cours à Sciences Po, donc ça va pour
le... Approchez le micro.
Voilà, c'est pas un cours à Sciences Po, donc je ne vais pas vous annoncer le plan en trois parties, vous le découvrirez vous-même au fur et à mesure. Mais je voudrais commencer en introduction par le rappel de quelques notions, comme je l'ai dit, qui marquent aujourd'hui notre rapport à la laïcité. Alors, le premier constat, c'est celui d'un croisement, voire d'un choc aujourd'hui de deux mouvements profonds de la société française, l'un très ancien, l'autre beaucoup plus récent. Le mouvement très ancien, j'y reviendrai de façon un petit peu plus détaillée, mais c'est le processus de sécularisation de cette société. Dans un article du Monde paru cet été, un spécialiste des questions de sécurité, un sociologue, directeur de recherche au CNRS, excellent chercheur, Sébastien Rocher, disait que l'athéisme est aujourd'hui le pilier de la société française. Et il ne disait pas ça en l'air. Il disait ça parce qu'il présentait une grande enquête qu'il avait faite depuis l'université de Grenoble, surtout le sud-est de la France, auprès de jeunes, comme on dit, issus de l'immigration, donc plutôt en général de confession musulmane, sur ce qui freinait leur intégration à, j'aime pas trop le mot, mais disons l'identité française. Et un des freins majeurs, c'est leur relation à une société athée. Le fait que Dieu a disparu de l'horizon politique et social français. Alors je reviendrai de façon un petit peu plus approfondie sur les origines de cette disparition. Mais quelques temps après, je lisais sur le site du Figaro, où je ne vais pas très souvent, mais enfin là ça m'était arrivé, un article qui s'intitulait « La France, fille aînée de l'athéisme ». Et toutes les statistiques, si tant est qu'elles soient crédibles, le montrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, 40% des personnes interrogées déclarent ne pas croire en Dieu. C'est le chiffre le plus élevé en Europe avec la Suède, et derrière la République tchèque. Alors, en République tchèque, c'est autour de 85% daté. Et ça avait tellement heurté le pape Benoît XVI lorsqu'il s'est rendu en visite en République tchèque que lorsqu'il en est revenu à la fin 2009, il a créé le Parvis des Gentils, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette innovation, pour relancer le dialogue avec les incroyants. Et ce Parvis des Gentils a tenu une session à Paris, d'ailleurs, l'année suivante, et puis continue son chemin aujourd'hui. Donc la France est un pays qui, dans lequel le processus de sécularisation, d'athéisation, s'approfondit, et cela n'est pas prêt de cesser. Parce qu'il s'est produit, alors ça, tu évoquais le fait que je suis enseignant, je le constate toutes les semaines, il s'est produit en France une rupture dans la transmission de la connaissance des religions, mais aussi de l'interrogation sur le transcendant, qui fait que les générations qui viennent sont non pas hostiles, mais ignorantes ou inintéressées à cette connaissance. Donc ce processus de sécularisation va s'accentuer. Il est ancien, j'y reviendrai. L'autre processus beaucoup plus récent, c'est la pluralisation, pardon pour ce vilain néologisme, du paysage religieux. C'est-à-dire que la France est un pays dans lequel l'Église catholique a longtemps connu une position hégémonique. Et quand je dis longtemps, jusqu'à une période récente, hein, il faut voir ce qu'a été la présence catholique, la bigoterie, l'ordre moral sous le Second Empire et tout de suite après le Second Empire. Hein. Et dans cette France catholique, dans laquelle... non sans mal, des minorités religieuses, les juifs et les protestants, ont fini par être reconnus et traités à égalité avec les catholiques, eh bien, nous avons vu arriver d'autres confessions. Et évidemment, celle qui aujourd'hui est la plus visible, c'est l'islam. Mais pas seulement. La France est le pays qui compte la plus forte communauté bouddhiste en Europe. Les orthodoxes, nous ne les avons jamais vraiment vus arriver. Bon, les Russes blancs, chauffeurs de taxi, dans Quai des Orfèvres. Mais aujourd'hui, il y a une communauté orthodoxe très forte qui n'est plus faite seulement d'immigrés russes ou grecs, mais aussi de Roumains. Hein. Et une grande partie des Roumains qui, voire Michel Kubler, une grande partie des Roumains qui arrivent aujourd'hui en France sont des Roumains orthodoxes. Non. On pourrait multiplier les exemples. Alors, il y a un domaine qui est très peu connu, c'est celui des évangéliques. Malgré quelques excellents ouvrages, dont celui de Linda Kaye sur le sujet, ces évangéliques sont peu connus, mais nous commençons à avoir des études sur les Chinois de Paris, la religion des Chinois de Paris. C'est très intéressant. Les Chinois sur la rive droite sont plutôt bouddhistes. Ou confucianistes. Les Chinois de la rive gauche, les Chinois de la rive gauche sont bouddhistes ou confucianistes. Les Chinois de la rive droite, ils sont évangéliques. Alors, moi, je ne croyais pas le chercheur qui m'avait parlé ça, donc je suis allé au temple de la rue Saint-Antoine. Le temple de la rue Saint-Antoine, qui est une ancienne église baroque, renaissante plus que baroque, une ancienne église renaissante, le temple de la rue Saint-Antoine, c'est un temple protestant chinois, évangélique. Donc nous assistons à une diversification religieuse de ce pays, mais c'est une diversification de minorités. C'est-à-dire que face à une progression de longue durée vers la sécularisation et l'athéisme, vous avez en même temps une juxtaposition de minorités très diverses qui cherchent leur place dans ce paysage. Et qui cherchent encore une fois leur place dans un paysage longtemps marqué par l'hégémonie catholique. Et ça rend très difficile, pour tous, pas seulement pour les musulmans, pour tous, ça rend très difficile leur insertion dans ce paysage. Ça, c'est le premier constat. Je vais faire un deuxième constat, pardon, c'est peut-être des banalités pour certaines et certains d'entre vous, mais qui est qu'en France, et c'est là qu'il existe une particularité française, je ne crois pas du tout... Alors, Philippe Portier l'aurait sans doute mieux expliqué que moi que ça, parce que c'est un chercheur de longue durée sur ces questions. Je ne crois pas du tout qu'il existe un modèle laïque français. En revanche, il existe une particularité française. C'est que nous sommes le seul pays à mélanger allègrement trois notions, qui sont trois notions très différentes. La première de ces notions, c'est la laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? La laïcité, c'est une notion philosophique. c'est le respect de la liberté de conscience, de la liberté religieuse. Respect de la part des pouvoirs publics de la liberté de conscience de chacun, et respect de la part de chacun de la liberté de conscience des autres. Hein, c'est réciproque, si vous voulez. Et cette laïcité, elle n'a pas de traduction juridique. Dans la loi du 9 décembre 1905, la laïcité n'est pas définie juridiquement. Le premier article de la Constitution dit que la France est une république laïque, mais elle ne dit pas en quoi consiste cette laïcité. Donc ça, c'est une notion philosophique, éthique, mais pas une notion juridique. La deuxième notion, c'est la sécularisation, je viens de l'évoquer. C'est le fait que, en Europe, nos sociétés se sont peu à peu déprises du religieux depuis plusieurs siècles. Et que ce religieux qui imprégnait à la fois les comportements et les institutions s'est peu à peu effacé. Et où a été, parfois, brutalement expulsé de certaines institutions. Alors, historiens et philosophes débattent sur les origines, on n'a pas à reprendre ce débat ici, de la sécularisation. Est-ce qu'elle est née au Moyen-Âge, avec la séparation affirmée du spirituel et du temporel dans la réforme grégorienne? Est-ce qu'elle est née avec l'humanisme et la réforme, avec l'affirmation de l'autonomie du sujet et d'une plus grande part donnée à la personne, puis à l'individu, dans la vie sociale et politique? Bon, tout ça, c'est compliqué. Mais la France est un pays sécularisé, je viens de le rappeler, 40% d'athées, évidemment, c'est un pays sécularisé. Et puis la troisième notion, c'est une notion juridique, elle, c'est la séparation. Donc nous sommes dans un pays de séparation des églises et de l'État, ça a été voté en 1905, loi préparée par Aristide Briand. Et donc, en France aujourd'hui, les confessions religieuses et l'État sont séparées. Ce qui signifie que l'État n'a pas de religion. Donc que l'État est neutre religieusement et que les services de l'État sont neutres religieusement. Donc le service public et les agents du service public n'ont pas de religion quand ils sont en fonction. Mais pas les usagers. Les usagers, ils peuvent entrer dans une mairie avec leur confession religieuse sur eux. C'est pas interdit. Et un usager du service public, ça n'est pas un agent du service public. Donc en France, nous mélangeons allègrement ces trois notions, laïcité, séparation, sécularisation. Mais je crois, alors je ne demande qu'à être démenti, que nous sommes un des rares pays, sinon le seul pays où cela se passe comme ça. Prenons un ou deux exemples proches. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est un pays de laïcité, voire de laïcité poussée jusqu'au communautarisme, disent certains. C'est un pays largement sécularisé. Mais alors, ce n'est pas du tout un pays de séparation, parce que la reine d'Angleterre est toujours le chef de l'église anglicane. Mais c'est le plus important, c'est que l'archevêque de Canterbury est nommé par le Premier ministre. Donc les Anglais ne peuvent pas avoir de Premier ministre qui ne soit pas anglican. Donc ce n'est pas du tout un pays de séparation de l'église et de l'État. Les États-Unis sont un pays laïque. Le premier amendement à la Constitution américaine impose le respect de la diversité religieuse et de la non-discrimination religieuse. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir comment le nouveau président américain, M. Trump, va imposer la discrimination à l'entrée sur le territoire américain entre les différents candidats, puisqu'il ne veut plus laisser entrer des musulmans sur le territoire américain. Alors, il y a déjà eu des quotas aux États-Unis dans les années 20, mais c'était des discriminations sur des critères nationaux. Ce n'était pas des discriminations sur des critères religieux. Peut-être qu'il pourra imposer la discrimination à l'entrée, mais en tout cas, il ne pourra pas imposer la discrimination à l'intérieur. Ça, la Cour suprême, là-dessus, est rigide. Et le premier article, le premier amendement à la Constitution est respecté. Donc, c'est un pays laïque. C'est un pays de séparation, contrairement à ce que beaucoup croient, de la religion et de la politique. La prestation de serment sur la Bible n'a rien à y faire, parce que le premier amendement dit bien qu'il est interdit d'établir une religion. Donc l'État ne peut pas avoir de religion aux États-Unis. Et c'est aujourd'hui, effectivement, un combat qui est mené par certains pour que cette règle soit mieux respectée. Mais les États-Unis ne sont pas un pays sécularisé. La religion imprègne encore un très grand nombre d'actes de la vie privée et publique. Et aujourd'hui, même si ça commence à descendre très vite, aujourd'hui, 90% des Américains continuent à affirmer qu'ils croient en Dieu. Et s'affirmer athée aux États-Unis, c'est affirmer une singularité qui parfois ne vous distingue pas en bien, hein, dans le groupe où vous allez vous trouver. Bon, je pourrais multiplier les exemples, on pourra éventuellement le faire dans la discussion. Mais en tout cas, en France, ces trois notions, elles sont entremêlées. Et je pense que de ne pas voir que ce sont trois notions bien distinctes qui doivent être appliquées, bien sûr, elles ont des relations les unes avec les autres, mais qui doivent être appliquées chacune dans leur domaine, notamment sur le plan juridique, ça aboutit à une brouille du paysage religieux, et c'est sans doute à l'origine d'une partie de nos difficultés d'aujourd'hui. Alors je voudrais maintenant en venir aux trois parties que je souhaitais traiter assez rapidement pour qu'on ait peut-être le plus de temps possible pour la discussion. La première partie, elle concerne bien sûr la loi de 1905 et le cadre dans lequel s'exerce la liberté de conscience et la liberté de culte. Bon, vous connaissez cette loi, donc je ne vais pas la détailler. Je voudrais simplement insister sur un aspect qui est mis aujourd'hui en évidence par ceux qui ont repris des recherches sur cette loi. Je pense notamment à Philippe Portier, mais aussi à des juristes comme Patrice Roland. Tous insistent sur le caractère libéral de cette loi. J'ai un petit peu écouté le débat sur la primaire, en vue de la primaire de la gauche jeudi soir. Vous aurez vite fait de comprendre mes opinions. Je n'étais d'accord que sur un seul point avec M. Hamon, c'est quand il a dit « la loi de 1905 est une loi de liberté ». La loi de 1905 est une loi de liberté. Et c'est une loi, paradoxalement, on commence à en avoir des preuves, c'est peut-être pas le mot le plus adéquat, mais en tout cas la vérification historique, que cette liberté, elle n'était pas si grande que ça avant. Sous quel régime vivaient les croyants français, catholiques, protestants ou juifs, avant 1905? Sous un régime ou concordataire pour la religion catholique. Napoléon Ier avait fait en 1801 de la religion catholique la religion de la majorité du peuple français, pas la religion d'État, hein, la religion de la majorité du peuple français. Ou un régime d'accord État représentant des grandes religions, consistoire ou conseil œcuménique des églises avec les protestants et les juifs. Mais qu'est-ce que ça permettait, ce régime-là? Ça permettait une intervention permanente de l'État dans la gestion des affaires religieuses. Ce que Napoléon avait souhaité, c'était pouvoir gérer l'église et sortir de la crise qu'avait entraînée la Révolution avec l'impossibilité de mettre en place la constitution civile du clergé. Et donc le XIXe siècle est un siècle de réglementation de la religion en France. Et alors ce qu'on découvre, c'est que par exemple avant 1905, les préfets républicains qui en avaient la possibilité interdisaient à tour de bras les manifestations religieuses publiques. Il était très difficile souvent dans certains départements d'organiser une procession. Parce que le préfet franc-maçon et républicain disait non, pas question, interdiction de manifestation sur la voie publique, vous ne faites pas votre procession. Bon. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est que la loi de 1905 qui assure la liberté de culte, eh bien cette loi de 1905, elle va être appliquée dans la jurisprudence du Conseil d'État comme une loi libérale. Et il y a beaucoup plus de processions religieuses après 1905 qu'avant. Alors je ne dis pas que tout ait été libéral, que c'était une loi de liberté, qu'il ne s'agit pas d'idéaliser. Hein. Il y avait eu la loi sur les associations de 1901, qui obligeait les associations à se déclarer, et vous savez qu'un certain nombre, les congrégations, pardon, à se déclarer, vous savez qu'un certain nombre de congrégations avaient quitté le territoire français pour ne pas demander cette autorisation qui était jugée liberticide. Mais si vous reprenez la jurisprudence du Conseil d'État après le vote de cette loi, et d'ailleurs le rapport Briand qu'on devrait mieux connaître, le rapport d'Aristide Briand, qui fait une espèce de... qui récapitule l'histoire religieuse française, hein, des origines jusqu'à 1905, le fait dans la perspective d'assurer strictement la séparation de l'Église et de l'État, de mettre fin donc à cette présence hégémonique catholique dans la société, mais de permettre vraiment l'Église libre dans l'État libre. Hein, c'était la parole de Montalembert. Alors c'est amusant, les Italiens attribuent cette parole à Cavour, mais c'est un abus. C'est Montalembert le premier à l'avoir utilisé. L'Église libre dans l'État libre. Et l'Église s'est trouvée beaucoup plus libre de ses mouvements après 1905 qu'avant. Hein. D'ailleurs, un certain nombre d'évêques français, là aussi les études aujourd'hui le montrent, étaient très favorables à cette loi, à l'époque. Et c'est l'intervention de Pie X, motivée par toutes sortes de raisons, y compris le combat qui était engagé à l'époque contre le modernisme, qui a fait que le pape a demandé aux évêques, et ils ont obéi, de rejeter la loi, de refuser la loi. Mais beaucoup d'entre eux, tout en sachant que sur le plan matériel, ça allait être plus compliqué, parce qu'il allait falloir trouver une rétribution pour les membres du clergé, bon. Et puis régler la question scolaire, et c'est elle qui va ensuite empoisonner la mise en place de la loi de 1905 et qui va créer le combat laïque contre anticléricaux. Contre cléricaux. Mais cette loi de 1905, au début, un certain nombre étaient très tentés, et pour ceux qu'on appelle les catholiques libéraux, ils l'ont fait, étaient très, très tentés de l'accepter. Alors pourquoi cette loi libérale a été perçue comme une loi liberticide, sur injonction du Saint-Siège à l'époque, c'est parce qu'il s'est posé notamment le problème de l'éducation, de la liberté d'éducation, et il a fallu attendre, on ne va pas revenir sur toutes les étapes, mais presque un siècle pour que la question soit réglée par les accords Lang-Kloupet dans les années 1990, mais ça a été extrêmement long. Le combat entre ceux qui voulaient soustraire les chères têtes blondes à l'influence de l'Église catholique. Moi, je me souviens avoir fait, au début des années 80, au moment où il y avait une vive confrontation à propos de la loi Savary, une interview de Jean Popren. Jean Popren était un militant socialiste, un bon historien, quelqu'un de vraiment sympathique. Il me disait, mais vous ne pouvez pas laisser les gamins, y compris dans les écoles privées, endoctrinés dans cette superstition religieuse. Lui, il voulait aller jusqu'au bout, il voulait extirper la superstition de l'enseignement. Et puis de l'autre côté, ceux qui défendaient, et ils ont été très très nombreux à le faire en 1984, ceux qui défendaient la liberté d'enseignement. Hein. Et donc cette confrontation-là, elle a marqué les esprits et elle a fait que l'affrontement entre laïcs et catholiques ou cléricaux a été très fort. Mais je vous cite une citation d'Antoine Pro, que je trouve très amusante, très bon historien, Antoine Pro, de l'histoire de la République, enfin, de l'histoire de la France contemporaine. Et Pro disait « Laïcs et cléricaux forment un couple de partenaires indissociables qui se constituent et se renforcent réciproquement. » Et donc, dans au XXe siècle, en France, effectivement, ils se sont réciproquement renforcés. Mais cette idée-là, de ne pas laisser les enfants soumis à l'influence de la superstition religieuse, on l'a retrouvée dans l'affaire du foulard, des mères de famille qui accompagnent des enfants dans des sorties scolaires. C'est exactement la même chose. Est-ce qu'elles font du prosélytisme à l'égard des enfants qui ne sont pas de confession musulmane? On est toujours dans cet état d'esprit-là. Et donc, nous avons du mal à appliquer cette loi 1905 dans l'esprit de ce qu'a été cette loi. En tout cas, là-dessus, il existe des pare-feux vraiment importants, et notamment le Conseil d'État. L'une des jurisprudences les plus nombreuses du Conseil d'État, ça a été les sonneries de cloche. Hein. Alors aujourd'hui, on veut interdire les sonneries de cloche parce que ça dérange et que ça réveille. Mais pendant longtemps, c'était parce que c'était un signe religieux hein, qui organisait la vie sociale autour de sons qui étaient des sons religieux. Mais depuis les sonneries de cloche jusqu'au burkini l'été dernier, le Conseil d'État a presque toujours interprété la loi de 1905 dans le sens libéral, dans le sens de la liberté religieuse, dans le sens de la garantie de la liberté du culte. Il y a une limite, mais ça c'est une autre construction juridique, ce sont les sectes. C'est-à-dire que parfois la pratique de certains cultes dérive vers de la pression psychologique, de la manipulation, de l'extorsion de fonds. Mais là, il y a d'autres textes, il y a d'autres lois qui peuvent permettre de limiter les abus sectaires ou de lutter contre les abus sectaires. Mais ça, ça ne fait pas partie du tout de la loi de 1905 et de la loi qui régit les relations entre l'Église et l'État. Voilà, c'était un premier rappel que je voulais faire pour essayer de voir, on en reparlera peut-être, que a priori, cette loi n'empêche pas l'intégration d'autres confessions que celles qui existaient à l'époque dans le paysage religieux français. Alors il y a bien des problèmes qui peuvent se poser, notamment sur le financement des lieux de culte. Mais là aussi, la jurisprudence du Conseil d'État est très évolutive et une décision de juillet 2011 est en train, en bonne partie, de régler les problèmes. Alors c'est vrai, c'est un paradoxe que cette loi n'est pas appliquée sur tout le territoire français. Elle n'est bien sûr pas appliquée en Alsace et en Moselle, puisque les Alsaciens et les Mosellans ont retrouvé le concordat que Bismarck leur avait laissé lorsqu'ils étaient passés sous souveraineté allemande après 1870, et qu'en Alsace, il est plus facile de financer un lieu de culte que sur le reste du territoire français. Encore que, bon, je vous dis, la jurisprudence a évolué, et puis la présence forte du catholicisme fait que la seule confession à laquelle la loi de 1905 ne s'applique pas sur le financement des lieux de culte, c'est le catholicisme. C'est ce qui avait fait d'ailleurs qu'en 1905, le cardinal Lustiger, en 2005, pardon, pour le centenaire de la loi de 1905, le cardinal Lustiger était le plus ardent défenseur de cette loi. Il la trouvait vraiment très très bonne, puisque pour toutes les églises construites avant 1905, vous le savez, c'est les communes qui doivent entretenir les lieux de culte et les mettre à disposition des associations diocésaines. Alors sauf en Alsace-Moselle, et là il y a quand même, alors j'ai vérifié ça quand j'étais conseiller au Saint-Siège, il y a quelque chose d'amusant, c'est que comme on applique un concordat qui date de 1801, alors que les autres concordats ont presque tous été signés dans l'entre-deux-guerres, le président de la République française est le seul chef d'État, là aussi je ne demande qu'à être démenti, est le seul chef d'État au monde aujourd'hui qui nomme deux évêques. Monsieur Hollande nomme administrativement, hein, pas spirituellement, mais administrativement, les évêques de Strasbourg et de Metz sont nommés par le président de la République française. Voilà. On aboutit à ce type de paradoxe dans la complexité de la relation française aux religieux. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était la question de Dieu. Pardon de la modestie du propos, mais je vais relativiser tout de suite. Comment Dieu a-t-il été évacué du paysage politique français ? Parce que je crois que c'est ce qui s'est passé et que ça n'a pas été le fruit du hasard. Ça a été une politique volontaire qui a abouti à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ça s'est joué au début de la mise en place des institutions de la Troisième République. Et à ce moment-là, il y a eu une confrontation politique entre cléricaux et anticléricaux. Les cléricaux étaient encore très puissants. L'anticléricalisme était l'anticléricalisme des républicains qui dénonçaient l'alliance du trône et de l'autel. Et il y a eu la fameuse campagne électorale de 1877 où Gambetta s'est exprimé « Le cléricalisme, voilà l'ennemi hein. ». Le cléricalisme, voilà l'ennemi, et où il a ajouté, à propos du président de la République de l'époque, Mac Mahon, une fois que le peuple aura parlé, il faudra se soumettre ou se démettre. Bon. Effectivement, il a fallu se soumettre, parce que le peuple, les hommes, les femmes ne votaient pas à l'époque, hein, les hommes se sont prononcés pour les candidats républicains contre les tenants de l'alliance du trône et de l'autel. Il faut voir ce qu'a été, j'ai relu ça récemment pour un article, il faut voir ce qu'a été la campagne électorale de 1877. Les évêques organisaient des processions dans les rues contre Satan, contre le Satan franc-maçon, et pour qu'on vote bien aux élections. Au point que certains candidats conservateurs avaient demandé qu'ils mettent un peu la sourdine, parce qu'ils ne voulaient pas apparaître comme les candidats des curés, hein, ce qui pouvait leur porter préjudice. Bon. Donc il y avait encore à ce moment-là une présence très, très forte. Mais qu'est-ce qui s'est joué ensuite ? Ce qui s'est joué ensuite, c'est la mise en place des lois scolaires de Jules Ferry. Et Jules Ferry a toujours affirmé qu'il était anticlérical, mais qu'il n'était pas antireligieux. Et d'ailleurs, il en a donné la preuve dans la mise en place des lois scolaires, puisque à ce moment-là, on a réservé le jeudi comme une journée libre, pas pour des questions de rythme scolaire et pour que ces pauvres petits puissent récupérer. Hein. Non, non, pour qu'on puisse, pour les parents qu'ils souhaitaient, enseigner le catéchisme. Et Ferry avait même proposé qu'on enseigne le catéchisme dans les locaux de l'école publique. Et il a été battu là-dessus à la Chambre des députés. Donc il n'était pas anti-religieux, mais il était anticlérical. Et le problème qui s'est posé était de savoir par quoi allait-on remplacer l'enseignement de la morale qui était enseigné par le clergé jusqu'alors à l'école publique. Et Ferry a dit, mais on va remplacer ça par l'enseignement de la morale de nos pères, donc par l'enseignement de la même morale. Là aussi, une thèse vient d'être soutenue qui montre qu'il n'y a pas eu de variation par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'on faisait de Dieu dans tout ça? Est-ce que c'était Dieu qui fondait la croyance en Dieu qui fondait la morale ou pas? Et là, il y a eu opposition entre des républicains, entre des spiritualistes, qu'anciens héritiers de l'école spiritualiste de Victor Cousin, qui voulaient inscrire les devoirs envers Dieu dans la loi, et Ferry qui a refusé. Et Ferry a refusé en disant « c'est pas le Parlement qui vote ou non l'existence de Dieu ». Aujourd'hui, nous lui donnons raison. On ne va pas voter l'existence de Dieu au Parlement. Mais les spiritualistes de leur côté, avec en tête celui qui était président du Conseil d'ailleurs en 1977 quand MacMahon a dissous, Jules Simon, les spiritualistes, eux, souhaitaient que l'on maintienne dans la loi un horizon transcendantal, même sans forcément croire en ce Dieu, mais que l'interrogation continue à être posée. Et Jules Simon s'est battu au Parlement pour qu'on mette les devoirs envers Dieu dans la loi. Et il a été battu. Mais il s'est expliqué, et je vous lis quelques lignes parce qu'elles me semblent très belles et très intéressantes. « Nous voudrions faire aimer la République, écrit Jules Simon. Vous pensez uniquement à la faire craindre. Nous voudrions la faire désirer. Vous voulez qu'on la subisse. » Vous allez jusqu'à craindre la diversité des croyances sans vous apercevoir que sous ce nom, c'est la liberté elle-même qui vous fait peur. Vous allez jusqu'à craindre la diversité des croyances. C'est très important parce que c'était tout le problème et ça l'est encore aujourd'hui. C'est la diversité des croyances qui ennuie, voire qui peut faire peur. Et c'était déjà le cas dans les années 1880-1881. Et Jules Simon s'était exclamé, je vous en supplie, mettez le nom de Dieu. Je ne vais pas retrouver là la citation, mais encore qu'elle est très belle. Mettez le nom de Dieu dans cette loi, mettez-le, je vous en supplie, au nom de la République et aussi au nom de la France. Et il était républicain, il n'était pas croyant, c'était des agnostiques, c'était des tenants de la croyance au Dieu naturel, si vous voulez. Mais il voulait que cet horizon soit maintenu. Et cet horizon n'a pas été maintenu. Et la question que nous nous sommes posés à quelques-uns récemment dans un numéro de revue que nous avons concocté, c'était pourquoi est-ce que Jules Ferry était sur cette attitude ambiguë? Parce que les devoirs envers Dieu, ils ont été maintenus, pas dans la loi, mais dans les programmes. Et ils n'ont disparu qu'à la Libération en 1945. Hein? Donc sous la Troisième République, alors bien sûr les instituteurs petit à petit avaient évacué ça, hein? Mais la phrase de morale au tableau, elle pouvait, si on respectait le programme, être une phrase de morale des devoirs envers Dieu. C'était encore dans le programme, ça allait rester. Mais pourquoi Ferry était-il sur cette attitude ambiguë? Et c'est une explication que je propose, mais elle peut évidemment être contestée. C'est parce qu'ils pensaient que le problème allait vite être résolu. Ils étaient d'autant moins anti-religieux, ces républicains anticléricaux, qu'ils pensaient que la question de Dieu n'allait plus se poser. C'était des comtistes, des héritiers du positivisme, du progrès, de la science. Et ils pensaient que la question de Dieu allait être évacuée par le progrès scientifique, comme Auguste Comte l'avait d'ailleurs prévu. C'était un philosophe extrêmement important à l'époque. Très écouté. J'avais jadis lu un livre du père de Lubac, qui est un livre magnifique, Le drame de l'humanisme athée. Et dans ce livre, entre Marx et Dostoïevski, il y a tout un chapitre sur Auguste Comte. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher, Auguste Comte? C'est ennuyeux comme tout. Non, il avait raison. Il avait raison parce que l'horizon du progrès scientifique et de l'évacuation de Dieu du paysage que professait et qu'annonçait Auguste Comte, c'est ce qui était attendu par ces républicains-là. Et donc, le combat entre cléricaux et anticléricaux, c'était aussi un combat entre ceux qui voulaient continuer à affirmer une référence à un horizon transcendantal dans la vie sociale et politique, et ceux qui pensaient que cette référence-là, elle allait être gommée, elle allait être évacuée. Et les deux ont eu raison, parce que cet horizon, il existe toujours pour certains, mais il est effacé, et son effacement continue pour beaucoup d'autres, puisque aujourd'hui, 40% des Français se déclarent athées, et qu'il n'y a aucune raison que cela ne se poursuive pas dans les années à venir. Or, je crois que nous sommes là dans une exception française très, très forte. Il y a encore une fois la Suède, la République tchèque qui sont proches là-dessus. Mais ça ne gêne pas du tout des Britanniques de chanter « Dieu sauve la reine ». Dieu fait partie du préambule de la Constitution allemande. Il y a des cours de religion dans les écoles en Italie. Le président des États-Unis prête serment sur la Bible. Et je pourrais trouver beaucoup d'autres exemples. Et là, nous sommes... Alors, est-ce qu'il y a un espace de travail pour des médias confessionnels sur ce plan ? Nous sommes dans une exceptionnalité française qui a une profondeur historique et contre laquelle il est difficile de résister. Un mot sur l'enseignement du fait religieux qui devrait permettre de rattraper ça. C'est un faux problème et une fausse querelle. Parce que l'origine de la sortie des programmes scolaires, de toute explication sur les religions, ce n'est pas un complot, ce n'est pas une volonté de l'éducation nationale d'avoir sorti ça des programmes. Non, c'est parce qu'au moment où, dans les années 70, notamment après la réforme Habit, le collège unique, tous ces programmes ont été revus, un certain nombre d'événements historiques, par exemple, qui permettaient aux instituteurs et aux professeurs laïcs, voire, j'aime pas du tout ce mot, laïcard, mais utilisons-le quand même, de parler de religion aux enfants, c'était le fait qu'on enseignait les guerres de religion, et il fallait bien expliquer quelle était la différence entre un catholique et un protestant, et donc de parler de Dieu, et de parler de la foi, et de parler du salut et des Écritures. Bon. Mais ça a été sorti des programmes. Mais pas pour des raisons idéologiques, parce qu'on a voulu enseigner l'histoire d'une autre manière. Bon. Et donc, petit à petit, toute cette connaissance-là, tout cet acquis culturel a été sorti de la transmission. Là-dessus, bien sûr, c'est ajouté la rupture dans la transmission religieuse dans les familles. Hein, ce que le père Colomb appelait jadis le catéchuménat social, au moment d'une querelle sur le catéchisme dans les années 50. Hein, la fin du catéchuménat social, c'est sorti des familles. Et donc, nous sommes dans une société dont Dieu a été évacué, et dans laquelle cette question-là n'est même plus posée. Alors bon, je donne des cours sur ces questions à des jeunes de 19-20 ans, ça les intéresse beaucoup. Ils sont même plus intéressés par le contenu, par l'aspect théologique de la question, que par l'histoire factuelle, qui est toujours un petit peu ennuyeuse. Mais on n'est pas là pour leur faire des cours sur le contenu, ça c'est justement l'objet du catéchisme. Mais l'ignorance de ces jeunes, elle est terrible. Et c'est ma conviction personnelle. Je ne demande là aussi qu'à être démenti. Je ne pense pas qu'on rattrapera tout ça en instituant un enseignement du fait religieux à l'école. Ça fait 30 ans qu'on en parle, on n'y est toujours pas arrivé. Bon. Donc il vaudrait mieux peut-être prendre le problème par un autre bout et réfléchir autrement. Je voudrais enfin, on en avait parlé en troisième point, en ayant pas mal réfléchi à ces questions et discuté beaucoup avec des jeunes musulmans. Alors, bon, ce n'est pas les jeunes que Geneviève évoquait tout à l'heure, parce que c'est des jeunes musulmans qui sont étudiants à Sciences Po, qui viennent par l'entrée qui a été aménagée pour des élèves venant de zones d'éducation prioritaire par le biais des conventions d'éducation prioritaire. Bon, cela étant, donc ce n'est pas des jeunes extrémistes, on a dans les amphis 15-20 jeunes filles voilées, mais avec lesquelles la discussion est toujours intéressante. Et le débat, il est sur le plan de la religieux, sur le plan de la foi, de la croyance, il est toujours paisible et très intéressant. Vraiment. Il y a un point sur lequel, très vite, on est pris à partie et un peu agressé. C'est la question du colonialisme. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'appréhension du phénomène religieux dans notre société, dans les tensions qui se créent, les difficultés qui se posent, il y a un non-dit. Un passé avec lequel les comptes n'ont pas été faits, c'est la question coloniale. Et je ne dis pas qu'il n'y ait pas des chercheurs qui travaillent sur ces sujets. Il y en a, nous en connaissons. Mais ça fait peu partie des programmes scolaires. L'entrée dans la question par le biais de l'esclavage et de la loi Taubira a un petit peu, c'était sans doute nécessaire, mais ça a un peu faussé le problème. Et donc, nous voyons bien que l'un des reproches très vivants qui est fait par ces jeunes à l'égard de la société qui a du mal, on ne dit plus assimiler, on ne dit plus intégrer, on dit inclure, qui a du mal à les inclure, c'est que nous n'avons pas su reconnaître ce qui s'est passé et la manière dont leurs arrière-grands-parents, ancêtres, ont été traités par la colonisation européenne et par la colonisation française en particulier. Et la relation de la société française avec le monde musulman, même si à l'époque coloniale, un très grand nombre d'islamologues français, en général d'origine catholique, ont étudié, connu l'islam et ont permis de travailler sur lui, cette relation reste encore aujourd'hui une relation violente, avec laquelle nous n'avons pas fait les comptes. Il a fallu très longtemps pour qu'on fasse les comptes avec Vichy. Mais nous y sommes à peu près arrivés. Le discours de Chirac sur le level d'Yves, de 30 ans, 40 ans d'études historiques approfondies. Mais sur la colonisation, sur toutes les errances de la colonisation, sur la vision qu'avait la société française dans laquelle moi j'ai été élevé. On avait encore la carte avec les taches roses au mur quand j'étais à l'école. Sur la vision que la société française de l'époque avait de ce qu'était une femme musulmane. Avec son voile, comme on voyait les Algériennes pendant la guerre d'Algérie. Bon. Tout cela, ça n'est pas effacé. Et je crois que tant, ça c'est le fruit de discussions avec ces jeunes, que tant que nous n'aurons pas réussi à déverrouiller, à débloquer ce tabou qui reste encore aujourd'hui dans notre héritage, eh bien, cette question religieuse avec l'islam, elle sera particulièrement compliquée. Nous ne savons pas tellement comment nous y prendre. Et je crois que là, alors pour le coup, les médias ont un énorme travail à faire. Les jeunes qui ont sifflé la Marseillaise, on a beaucoup reproché à Lionel Jospin de ne pas être parti à ce moment-là, lors du match France-Algérie, il y a maintenant plus de 20 ans, une vingtaine d'années. C'était des jeunes français. Ils sont français, ils ont la nationalité française. Mais ils sifflaient la Marseillaise parce qu'ils étaient venus pour applaudir l'équipe d'Algérie, parce que de cœur, l'équipe d'Algérie était leur équipe. Parce que c'était l'équipe de ceux qui représentaient ceux auxquels leurs parents, eux-mêmes, adhéraient contre les méchants. Les méchants, c'était le colonisateur français. C'était ceux qui avaient mené la guerre en Algérie avec des méthodes, avec les méthodes que nous connaissons. Donc je crois qu'aujourd'hui, dans la relation de la société française à la religion, ce problème de la diversité religieuse du paysage français, et je conclurai par là, se heurte à deux difficultés. Une difficulté qui est la méconnaissance de la réalité de la loi de séparation des églises et de l'État en raison de la confusion par laquelle j'ai commencé entre laïcité, séparation et j'ai oublié le troisième terme, bon, et sécularisation. Et c'est la première grosse difficulté. Et l'autre difficulté, alors ça vaut pour toutes les religions, hein, y compris pour les témoins de Jéhovah, hein, qui ne sont pas une secte. Qui sont un culte reconnu aujourd'hui comme tel, avec les avantages fiscaux que cela représente, par le Conseil d'État. Donc, on a cette première difficulté-là, puis il y en a une autre, spécifique à l'islam. Alors, je crois que, pour ce qui est de l'islam, il n'y a pas de raison que les musulmans ne soient pas inclus dans la société française demain, comme le sont les catholiques, les orthodoxes, ou peut-être les évangéliques, avec lesquels, sans doute, un certain nombre de problèmes vont se poser dans les années à venir. Il n'y a pas de raison que ça, si on applique la loi, qui est une loi de liberté, convenablement, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien si de leur côté, ils respectent la loi, évidemment. Hein, si de leur côté, ils respectent la loi. Mais je pense que ce tabou colonial est aussi un des poids que nous subissons et dont nous n'avons pas encore vraiment commencé à nous défaire et qui risque de peser encore pendant un certain temps. Merci de votre attention.
Merci Jean-Luc pour ce développement. Ceux qui veulent en savoir encore un peu plus, je peux, puisque tu as cité donc cet article sur lequel tu as travaillé avec Marie-Laurence Netter, c'est dans la revue 1900, revue d'histoire intellectuelle, un numéro spécial « Catholique en République » que tu as dirigé.
Voilà, c'est un numéro qui vient de sortir et qui s'intitule « Catholique en République ». Quand nous avons décidé du thème, il y a presque 2 ans, nous ne savions pas que ce serait un thème d'actualité.
Voilà. Alors, puisqu'on parle d'actualité, vous allez avoir la parole pour quelques questions. Moi, j'ai une première question. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre cette laïcité qui envahit les débats, notamment à gauche, et cette quête du vote catholique qui intervient? Alors, on ne va pas mordre sur le débat qui va suivre, mais laïcité à tout prix ou à tout craint et vote catholique qu'il faut absolument conquérir.
Oui, mais alors bon, là, je crois que des personnes beaucoup plus compétentes que moi vont pouvoir en parler très, très bientôt. Moi, la réponse que je peux faire, c'est qu'aujourd'hui, je prends ça par un autre bout. En sociologie électorale, telle que nous l'étudions et telle que c'est toujours étudié, il y a à peu près une seule constante. C'est que les catholiques pratiquants votent à droite. Hein. C'est René Raymond qui avait mis ça en évidence, notre maître René Raymond, il y a bien longtemps. On avait montré que 80 à 85% des catholiques pratiquants votaient à droite depuis 1958. Hein. Et c'est une constante. Alors, ce qui avait fait d'ailleurs que ça avait été une barrière contre le vote Front National. Et cette barrière a sauté il y a peu. Hein. Ça, c'est des sondages dans Pèlerin qui nous l'ont montré. Mais c'est la seule constante. Mais c'est quoi les catholiques pratiquants? Aujourd'hui, c'est moins de 2% de la société française. Alors un candidat à l'élection présidentielle, moi je veux bien qu'il fasse la chasse au vote des catholiques pratiquants. Mais ça ne va pas lui rapporter beaucoup. Bon. Alors peut-être qu'il faut se reporter... rendons hommage au quotidien La Croix, à la grande enquête qui a été menée par Yann Raison du Clusiou, peut-être que ça déborde aujourd'hui le vote catholique, le seul vote des catholiques pratiquants. Bon, d'accord. Mais même en comptant ce débord, on ne va pas aller très loin non plus. Donc moi, mon sentiment que si des candidats veulent être élus en s'appuyant sur le vote catholique, ça va être assez fragile. Alors on peut tenir le raisonnement inverse et dire... Voilà, c'est un vote, au contraire, qui est très identifié, qui est très solide, un vote convictionnel. Et donc, on peut s'appuyer sur ce vote-là comme un socle sur lequel développer autre chose. Mais je crois que Jérôme Fourquet va intervenir tout à l'heure. Moi, je ne veux pas parler à sa place. Lui, il connaît ça parfaitement. Je suis historien et pas politiste.
Question, réaction. N'hésitez pas à vous réclamer le micro.
Voilà, Isabelle qui va me taquiner, comme d'habitude.
Non, je voudrais revenir sur ta définition de l'athéisme. Parce que je discutais il n'y a pas longtemps avec Bréchon, Jean-Pierre Bréchon, hein, c'est ça Pierre. Qui a fait... Pierre Bréchon. Donc de Grenoble, et qui a fait tout un travail sur l'athéisme, et qui lui était plus... Il disait, voilà, il y a 15% en gros de vrais athéistes, athées, en France, mais il y a de plus en plus qui augmente beaucoup, c'est ce qu'il appelle lui la non-croyance,
oui.
Qui est plus compliquée que l'athéisme avec des gens qui peuvent être parfois croyants, parfois non-croyants, beaucoup plus mouvants. Alors je vais voir si tu es d'accord avec
oui,
ça.
Alors moi, les sondages auxquels je me réfère, mais je ne connais pas l'étude de Bréchon à laquelle tu fais allusion, mais je vais en prendre bien sûr connaissance. Le dernier sondage, c'était un sondage de la revue Clé. Clé, qui est sortie, je crois, en 2014, avant qu'elle ne disparaisse d'ailleurs, je crois. Et puis, il y a des statistiques qui sont publiées par le Pew Research Center. Alors, ce sondage, il disait 40% de non-croyants, effectivement, de gens qui s'affirment non-croyants. 40% de croyants, de gens qui affirment croire en Dieu, alors un Dieu divers et varié, et 20% se posent la question. Bon. Donc ça fait un peu varier. Les statistiques du Pew Research Center, elles mettent la France au quatrième rang parmi les pays les plus athées. Alors dans l'ordre, c'est le Japon, la Chine, la République tchèque et la France. Ça n'a pas grand sens entre nous. Parce que la notion de croyance en Dieu au Japon, elle est évidemment très différente de ce que nous connaissons ici. Donc mesurer ça dans un sens comparatif, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Nous n'en savons rien. Non, ce qui est intéressant, et c'est là que des études plus fines comme celle de Bréchon peuvent nous parler, ce qui est intéressant, c'est la tendance, comme toujours. Et la tendance, elle est quand même à une affirmation de plus en plus forte du nombre d'athées dans la société française.
Il dit que c'est moins l'athéisme que la non-croyance.
Que la non-croyance.
Et en disant que du coup, ça donne un paysage beaucoup plus
alors
mouvant,
moi, ce que
avec
je,
des gens
je,
qui peuvent aller de l'un à l'autre.
Je fonde mon raisonnement sur le fait que, je parle en tant qu'enseignant à l'Institut de pastoral catéchétique, à l'Institut catholique, donc c'est des problèmes que nous nous posons quasi quotidiennement, c'est la rupture dans la transmission. Hein ? C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est la diminution du nombre de baptêmes, la diminution du nombre de mariages religieux, la diminution du nombre d'enfants catéchisés, et que tout cela, ben, d'une façon ou d'une autre, aboutit à de la non-croyance. Hein ? Le seul moment où encore, pour l'instant, tout le monde se retrouve à l'église, c'est pour les obsèques, et encore de moins en moins. Mais oui, je pense qu'il faut nuancer, mais observer la tendance, quoi.
Autre question ?
Oui, c'est concernant la séparation de l'Église et de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe en France du fait qu'il y a encore des calvaires à la croisée des chemins, qu'il y a encore des jours fériés liés à la religion catholique ? Du coup, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quand même une différence entre la religion catholique et les autres religions due à notre histoire, en fait ?
Alors, c'est très bien parce que ça va m'amener à placer un autre de mes dadas, qui est en fait que le moment que j'ai évoqué où on a évacué Dieu du paysage politique et social, c'est un moment où un certain nombre de chercheurs, notamment Émile Durkheim, ont produit des études qui montraient que la religion avait été le lien social jusqu'alors. Et qu'il fallait trouver une autre forme de lien social que le lien religieux, parce qu'une société a besoin de lien social. Sinon, il y a le grand livre de Durkheim sur l'anomie, avec tous les dangers que cela peut représenter. Bon. Et la République a cherché, c'est par ce biais que je réponds à votre question, la République a cherché à avoir sa propre symbolique pour créer une religion civile républicaine. Les monuments aux morts de 1918, les bus de Marianne dans les mairies. Maurice Agulon a étudié ça de façon extrêmement fine et très intéressante. Je vous engage à aller sur Internet rechercher les photographies du transfert du cœur de Gambetta au Panthéon en 1920. C'est extraordinaire. C'est une cérémonie religieuse avec des oriflammes, une procession, tout y est. Des candélabres, il manque une crosse et une mitre, mais tout est là. Et je crois que la République a échoué à créer cette religion civile qui existe aux États-Unis. C'est-à-dire un horizon transcendantal, in God we trust, mais qui n'est pas Dieu catholique ou Dieu protestant ou Dieu musulman, qui est Dieu, qui est une forme de religion naturelle. Et sous ce Dieu, chacun peut avoir la croyance qui est la sienne. Et ça, les républicains, c'est le texte de Jules Simon que je vous ai lu, ils en avaient peur. Ils avaient peur de cette diversité-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de créer une religion civile, j'emploie la distinction au cher Paolo Prodi, qui était un des grands juristes historiens de l'école de Bologne, qui vient hélas de nous quitter, ils ont créé une religion politique. C'est-à-dire que c'était une religion qui simulait le religieux pour essayer de recréer du lien social. Alors la caricature de la religion politique, c'est le régime totalitaire, hein, où vous avez toutes sortes de manifestations qui empruntent à ce qu'étaient jadis les manifestations religieuses. Je ne dis pas que la République a été un régime totalitaire, loin de là. Mais elle n'a pas réussi non plus à créer cette religion politique, parce qu'une vraie religion politique, c'est une religion de propagande. Alors on a du coup une difficulté à inclure sous un englobant religieux des croyances très diverses qui vont des 15% d'athées convaincus jusqu'aux jeunes musulmans radicaux aujourd'hui dans la société française. Et donc une superposition de symboles, nos anciens symboles chrétiens, un certain nombre de symboles juifs qui sont recherchés. Nous avons aujourd'hui des études sur les juifs du Midi, et des fouilles archéologiques, et la remise, ou à Rouen d'ailleurs, où on a retrouvé un mikvé qui est aujourd'hui visitable. Donc les origines juives aussi de cette société. Puis là-dessus, on a les symboles républicains. Hein, donc à côté des clochers, on a les monuments aux morts. Et puis peut-être que demain, il y aura d'autres symboles, d'autres religions. Mais le problème, c'est la définition de l'englobant. Ça, je crois que vraiment, nous n'avons pas su le faire parce que ça a été volontairement évacué à un moment donné. C'est-à-dire l'idée de dire, bon ben voilà, Dieu, on y croit ou on n'y croit pas, mais on fait semblant qu'il existe parce que ça permettra de mieux respecter la diversité des croyances. Ça, c'est pas passé. Est-ce que ça répond à votre question ?
Vous avez évoqué une source de tension avec l'islam comme étant le colonialisme et ce passé qui a du mal. Mais il me semble que la situation est plus complexe parce que il me semblait que les tensions étaient arrivées avec des communautés qui n'avaient rien à voir historiquement avec la France, notamment que ce sont les Turcs qui, les premières, ont mis des foulards, et que les tensions aussi sont arrivées quand des imams ne parlant même pas français et ne venant pas des pays du Maghreb sont arrivés dans les mosquées françaises.
Oui, mais ça n'est pas contradictoire avec ce que je disais sur le colonialisme. Le fait qu'il y ait la manifestation de certaines communautés musulmanes par le biais de l'immigration, plus que ça la crée des tensions équivalentes à celles qui peuvent avoir été issues de migrations musulmanes venues de pays colonisés, c'est pas contradictoire. Je vous donne l'exemple de l'Alsace. Hein. Strasbourg, il y a peut-être des Strasbourgeois parmi nous, ils pourront le préciser mieux que moi. À Strasbourg, on a inauguré une mosquée en bon accord entre la municipalité, les autorités religieuses, musulmanes. Bon. Et ça s'est très bien passé. Sauf qu'il y a une communauté qui s'est mise à l'écart, c'est les Turcs. Hein. Bon, parce qu'eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que leurs ressortissants soient placés sous la responsabilité de responsables religieux non turcs. Mais ça, c'est un cas particulier turc que l'on peut observer, qui date du kémalisme et qu'on peut observer avec le gouvernement Erdogan aujourd'hui. Donc je crois pas que ce soit contradictoire, si vous voulez. Oui, il faut le compléter, bien sûr. Mais pour les Algériens en particulier, c'est ça qui joue. Pas seulement les Algériens. Parce qu'on en a pas mal en fait maintenant parmi nos élèves, nos étudiants, des étudiants du Sahel, Mali, Niger, ils sont très sensibles à ça parce que eux ils cumulent, hein. Ils cumulent le colonialisme, la religion et ils sont noirs. Et bien avec eux la discussion elle est un tout petit peu plus difficile.
Bonjour, Laurence Desjoyeaux, je suis journaliste à La Vie. Je voulais savoir si les efforts de l'État pour organiser le culte musulman, notamment par le CFCM, et même pour financer en partie les mosquées par des terrains à prix réduit, etc., est-ce que ça n'instaure pas de facto un nouveau rapport entre l'État et une religion sur un autre mode, peut-être ?
Mais écoutez, moi je serais à leur place, je me méfierais, hein. Parce que à qui Nicolas Sarkozy renvoyait-il peut-être pas Pierre Jox, qui a été le premier à le faire, mais Sarkozy renvoyait à Napoléon. Il faut lire son histoire. Napoléon, il ne voulait pas organiser la relation entre l'Église et l'État pour la liberté de l'Église. C'était pour la contrôler. Bon. C'est ce que Bobereau, un des meilleurs connaisseurs de ces questions, appelle la laïcité gallicane. Hein, il associe gallicanisme et laïcité. C'est pour contrôler les religions. Mais donc, si on renvoie les musulmans à Napoléon, ils vont se méfier quand même. Ils ne vont pas avoir envie d'avoir un État qui vienne se mêler de leurs affaires. D'autant plus que là, pour le coup, il y a l'exemple turc. Parce qu'il y a un lieu commun qui traîne et qui est une erreur énorme de comparer la laïcité française et la laïcité turque. Non, la loi de 1905, c'est l'Église libre dans l'État libre. La laïcité de Mustafa Kemal, c'est le contrôle des imams par l'État. Et aujourd'hui, il existe l'équivalent d'un ministère en Turquie, avec des représentants dans toutes les préfectures, et les imams doivent soumettre leurs prêches aux représentants du ministère avant de les prononcer chaque dimanche, puisqu'ils ont mis le jour de la prière le dimanche. Donc que des musulmans soient relativement méfiants, que les autorités musulmanes soient relativement méfiantes à l'égard d'un contrôle étatique, oui. Alors là où il y a une difficulté, c'est qu'il faut bien avoir des interlocuteurs. Bon. Mais c'est Lionel Jospin qui a créé l'instance de dialogue avec l'Église catholique. Ça a pris un siècle. Alors, on espère que ça pourra aller un peu plus vite avec l'islam, mais ça n'a pas été si facile que ça avec les catholiques.
Vous disiez que qu'enseigner le fait religieux n'était pas forcément une solution. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres suggestions?
Alors, je ne suis pas inspecteur général de l'éducation nationale. J'aurais bien aimé, parce que c'est une planque formidable. Qui est des nominations à discrétion du président de la République. Et donc, il y a un problème de rédaction des programmes scolaires, tout simplement. Et qu'on réintroduise dans les programmes d'histoire un certain nombre d'événements, de séquences qui font davantage appel à l'histoire culturelle ou à l'histoire religieuse qu'à l'histoire économico-sociale de la longue durée, ça permettra de réintroduire cela dans les programmes. C'est pareil en littérature. Si vous lisez Pascal sans connaître du jansénisme ou les pièces de Racine, on ne voit pas trop ce qu'on peut y connaître. Donc ça ne me semble pas très compliqué. Hein. Alors que il y a eu un premier rapport Joutard, 89, il y a eu la réforme de 1996, Dominique Borne, il y a eu un deuxième rapport Debré, 2002, le rapport Debré a créé l'Institut européen en sciences des religions, l'IESR, qui a été pris en charge au bout d'un moment par Dominique Borne lui-même, qui avait fait le programme de 96. Et puis l'IESR existe toujours, et il devait être là pour former les enseignants à l'enseignement du fait religieux, et ils n'y arrivent pas, parce que c'est très compliqué. Mais donc la solution de bon sens, me semble-t-il, je ne suis pas inspecteur général, la solution de bon sens, c'est de remettre ça dans les programmes normaux. Voilà. Et de ne pas isoler le fait religieux du reste. La religion, c'est un fait social comme un autre. Si on l'identifie, si on l'isole, eh bien, ce sera davantage une source de conflit que si elle fait partie de l'ensemble des phénomènes sociaux qui sont enseignés à l'école et à l'université.
Je me rappelle que le recteur Joutard, quand on lui demandait entre le fait religieux et la religion vivante, comment faire le passage, il était obsédé par le principe de précaution contre tout danger de prosélytisme.
Bien sûr. Oui, mais c'est ce qui a fait que les enseignants des syndicats laïcs se sont opposés en 1996 à l'introduction dans les programmes, non pas du fait religieux. Dominique Borne avait été extrêmement prudent. Ça avait été la dimension religieuse de notre culture. C'est ça l'expression qui est employée dans la réforme de 1996. La dimension religieuse de notre culture. Moyennant quoi, on a par exemple mis au programme la naissance du judaïsme, l'histoire d'Israël ancien au programme de 6e. Et au bout de 2 ans, il a fallu retirer les livres manuels d'histoire qui avaient été rédigés en intégrant cette donnée du programme, parce que c'était comme ceux qu'il avait écrit n'y connaissait rien, il donnait la Bible comme un texte historique. Et donc, on revenait à du fondamentalisme. Bon. Et on aboutit exactement à l'inverse de ce qu'on recherche. Alors que tout ça fait... Moi, qu'en programme de sciences, en terminale, il y ait un chapitre en biologie sur créationnisme, non-créationnisme, théorie de l'évolution, moi, ça ne me choquerait pas du tout. qu'on sensibilise les étudiants à ces questions. Mais ça fait partie du programme de Sciences Nat. Ça fait pas partie du... Enfin, pardon.
SVT, Sciences et Vie...
SVT, Sciences de la Vie et de la Terre.
Une dernière question, peut-être. Alors, la dernière question.
Marc Larcher, Alsace Média. Juste pour terminer, peut-être l'esprit de la loi 1905, tel que vous en avez parlé, est-il mis en danger ? De quelle manière ? Et est-ce que finalement, on pourrait concevoir que dans les années à venir, pour les tensions religieuses, pour un esprit plus laïcard que l'esprit de la loi 1905, amène une évolution de cette loi ?
Mais ça, ça n'est pas exclu. Et par exemple, les arrêtés anti-Burkini de l'été dernier sont clairement un détournement de l'esprit de la loi de 1905. Et donc, si on voit surgir des réglementations dans ce qui s'appelle encore l'espace public, mais qui est donc un espace non extérieur au service public, hein, j'entends bien, si on voit surgir des réglementations sur la présence de l'expression de la confession religieuse dans cet espace, l'esprit de la loi sera détourné. Il y a un cas qui est très frappant aujourd'hui, c'est le problème des entreprises. Hein. L'entreprise est un lieu privé, le gouvernement a produit un certain nombre de conseils pour voir comment pouvait être gérée dans les entreprises la question de l'expression de la croyance religieuse. Mais vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut exclure la religion de l'entreprise. Or, je rappelle quand même que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme dit que l'expression de toutes les opinions, même religieuses, il précise même religieuse, c'est inclus aujourd'hui dans le bloc de constitutionnalité, est permis, sauf dans les cas où il y a trouble à l'ordre public qui est réglementé par la loi. Donc oui, oui, moi je partage un peu votre crainte quand je vois comment on pousse vers un réaménagement à la fois des textes et de l'esprit de cette loi, qui est une loi de liberté. Benoît Hamon a raison.
C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Luc. Soyons attentifs aux horaires. Maintenant, il y a le temps d'atelier. L'atelier A5, image du terrorisme des migrants, faut-il tout montrer ou pas, se déroulera dans l'amphithéâtre. Ceux qui ont choisi de participer à cet atelier, vous n'avez même pas à vous déplacer.